Fenêtre et garde toujours sur ton visage le sourire, reflet de celui de notre Seigneur qui veut agir par toi, et pour cela se substituer toujours plus à toi. Un autre univers, avec moins de mal, serait qualifié par nous de meilleur, parce que nous raisonnons comme des douillets que l'effort épouvante. Serait-il un milieu apte à faire germer les saintetés qui naissent près de la croix? Plus tu te sentiras petite, plus tu adoreras bien, parce que tu parleras plus du fond du cœur, et plus tu adoreras bien, plus Dieu entrera dans tes imperfections et se servira de toi, tout médiocre que tu sois, pour faire rayonner beaucoup de bien. Tu t'inquiètes de voir autour de toi les vertus grandir et toi demeurer stationnaire. Humilie-toi, prie, demande, mais ne te trouble pas. L'essentiel n'est pas que ce soit moi, l'âme la plus sainte, la plus aimée, la plus privilégiée. Tant mieux si notre Seigneur est aimé beaucoup autour de moi. Tu as la consolation de pouvoir ajouter, et un peu à cause de moi, qui ai gardé ses âmes dans une atmosphère active et religieuse. Mon seul idéal est d'être le serviteur, la servante, à qui le Maître donne, dans son cœur, la place qu'il veut et qui ne désire que ceci, être fidèle. Au fond de ton âme, place avant tout immuable, comme base de toute ton activité, comme critère de la valeur et de la vérité des pensées qui t'envahissent, la paix de Dieu. Tout ce qui te rétrécit et t'agite est faux, au nom des lois de la vie, au nom des promesses de Dieu. Tu ne saurais croire combien, lorsque j'arrive à me reprendre un petit peu pour penser et prier, ainsi que cela m'est arrivé la dernière quinzaine à Hersin, je m'aperçois de la lumière grandissante de cette vérité, simple, mais indéfiniment riche et utilisable. Dieu est tout. En nous orientant de plus en plus intégralement et loyalement vers lui, en tendant vers lui de toutes nos forces, nous épuisons sans déchet toutes les énergies utiles de notre être. Nous nous rapprochons sans erreur et sans danger de perte de ceux que nous aimons. Nous nous rendons aptes à faire du bien autour de nous, à rayonner la paix et le bien. Par un seul acte, par une seule attitude, nous réalisons toute la complexité de nos aspirations et de nos devoirs. N'est-ce pas que cela est vrai et qu'il est bon de se vouer à la bénie unité de Dieu, où tout et tous sont atteints, sans risque et sans retour? Il est certaines façons de faire mieux que Dieu nous découvre que petit à petit, parce que dès l'abord, nous ne les aurions pas comprises. Il me semble que pour toi le moment est venu de mettre résolument l'action de notre Seigneur au centre de ton influence, de compter avant tout pour le succès profond de ton œuvre sur ton degré d'union avec la présence et la volonté du Maître. Que ne devons-nous pas être capables de faire, d'abandonner, si nous croyons en Jésus-Christ? Plus que jamais les hommes souffrent et accumulent la matière d'un ineffable sacrifice. Pourquoi faut-il qu'ils manquent à leur peine l'élément d'adoration et d'offrande par où s'explique et se transfigure le travail si lourd de coopérer à la vie? L'attitude qui nous met pleinement dans la vérité, c'est bien celle de la présentation, par où nous nous exposons humblement au rayonnement de l'être infini, avec l'ardent désir qu'il nous pénètre et nous transforme en soi. Comme si la meilleure attitude du serviteur attendant le maître n'était pas la dévotion au premier de ses devoirs humains, y voir clair en soi et autour de soi. Comment être aussi chrétien que pas un, tout en étant homme plus que personne? En plus de la communion avec Dieu et de la communion avec la terre, y a-t-il la communion avec Dieu par la terre, celle-ci devenant comme une grande hostie où Dieu se tiendrait pour nous? Il faut, s'il veut s'égaler à lui-même, que l'homme s'éveille à la conscience de ses infinis prolongements, à leurs devoirs, à leur ivresse. Il faut que, rejetant toutes les illusions d'un individualisme étroit, il élargisse son cœur à la mesure de l'univers. Il existe un plus-être, un mieux-être absolu qui se nomme progrès dans la conscience, la liberté et la moralité. Et ces degrés supérieurs d'existence se gravissent par la concentration, l'épuration, le plus grand effort. Pour grandir dans la vérité, il faut cheminer le dos tourné à la matière et non travailler à la rejoindre pour se fondre en elle. À la manière des corps en mouvement, le monde ne tient que par son élan et son jaillissement. Si en lui la multitude des monades arrêtait la fermentation de leurs activités, de leur industrie, de leurs recherches naturelles, il tomberait comme un avion dont le moteur ne tourne plus. Chrétiens, nous nous demandons parfois avec inquiétude à quoi bon nos stations prolongées dans les laboratoires, nos infinis creusements de tout ce qui recèle un mystère. Rassurons-nous, nous nous épuisons au moins à soutenir la terre jusqu'à ce que le corps du Christ soit consommé. Déjà, sur quelques éléments psychiques particulièrement anciens, tels que l'amour réciproque de l'homme et de la femme, nous pouvons mesurer quelle ampleur, quel enrichissement, quelle complexité, quelle pureté le travail du temps est parvenu à donner au noyau primitif d'un sentiment tout imprégné de sensations brutales. Qui sait quelles étonnantes espèces et nuances naturelles d'âme le persévérant effort de la science, de la morale, de la sociale sont en voie de faire naître, sans lesquelles la beauté et la perfection du corps mystique ne seraient point achevées. Pourquoi le souci du progrès et le culte de la terre, si on leur fixe comme terme l'achèvement du Christ, ne se mûrait-il pas, semblablement, en une grande vertu innommée qui serait la forme la plus générale de l'amour de Dieu, trouvée et servie dans la création? Parmi les travailleurs de la plus grande terre, le chrétien a donc en vertu de sa foi le droit de revendiquer une place. Et l'âme qui la portera à cette tâche sera toute brûlante de la flamme des conquérants. Pour lui aussi, le renoncer, le détacher, l'humilier, il y a un intérêt vital. C'est une question de vie ou de mort que le monde réussisse dans son entreprise, même temporelle. Dans la nature, il n'y a qu'un instant, le croyant voyait surtout les bras de Dieu qui enveloppent, ses mains créatrices qui pétrissent. Mêlant maintenant à l'esprit d'abandon l'esprit de domination, pour obéir, il devient athlète. Et contre la matière devant laquelle secrètement son cœur s'agenouille, il entreprend le duel qui doit se prolonger jusqu'à la consommation des temps, la lutte sincère de Jacob contre une étreinte adorée. Le monde, l'assujettissement au monde, le devoir de servir le monde sont lourds à porter comme une croix. Et c'est pour nous forcer à le croire que Jésus a voulu, dominant tous les chemins de la terre, se dresser en forme de crucifix, symbole où chaque homme eut à reconnaître sa propre et véridique image. Nous voudrions pouvoir en douter, espérer que la douleur et la méchanceté sont des conditions transitoires de la vie que la science et la civilisation élimineront un jour. Soyons plus vrais et ayons le courage de regarder l'existence en face. Plus l'humanité sera fine et se complique, plus les chances de désordre se multiplient et leur gravité s'accentue. Car on n'élève pas de montagne sans creuser des abîmes, et toute énergie est également puissante pour le bien et pour le mal. Tout ce qui devient souffre ou pêche. La vérité sur notre attitude en ce monde, c'est que nous y sommes en croix. Or, le Christ n'a pas voulu que son image douloureuse fût un simple avertissement dressé pour jamais sur le monde. Au calvaire, il est encore et surtout le centre de confluence et d'apaisement de toutes les souffrances terrestres.